Bonjour Monique.
Bonjour Élie, qu'est-ce que ça fait plaisir de te voir. Le temps, il est un petit peu couvert, oui. Il y a un petit peu de gouttes de pluie, mais
on sait pas trop.
Un vrai plaisir de te retrouver à Radio Shalom.
C'est le vrai mois de avril-mai là, les averses, il fait chaud, il pleut, on sait pas trop comment s'habiller. Beaucoup de choses aujourd'hui. On va démarrer, Monique, par des découvertes scientifiques archéologiques, avec une mystérieuse pyramide grecque retrouvée près de la Mer Morte, qui interroge les archéologues.
Et oui, une mystérieuse pyramide ptolémaïque vieille de 2200 ans a été découverte dans le désert de Judée, accompagnée d'objets remarquablement préservés par le climat aride, dont des papyrus grecs et des monnaies antiques qui offrent un espoir de percer les secrets de ce site encore inexpliqué. Elle a été qualifiée d'immense par les experts de l'autorité des antiquités d'Israël qui l'ont décelée dans le désert de Judée. Une structure pyramidale faite de pierres taillées à la main, pesant chacune des centaines de kilos, a été récemment découverte près de la Mer Morte, annonce l'institution dans un communiqué à la presse du 25 mars 2025. Donc c'est une découverte quand même assez récente puisqu'elle date du 25 mars de cette année. Les nombreux indices sont déjà mis au jour lors de la première semaine de fouilles, des papyrus écrits en grec, des pièces en bronze frappées à l'effigie des souverains de la dynastie Lagide ou d'un roi Séleucide, des armes, des outils en bois et des tissus devraient permettre d'en comprendre davantage sur cet édifice vieux de 2200 ans, encore bien mystérieux. Un trésor ptolémaïque en plein désert. D'après la publication de l'Autorité des Antiquités d'Israël, les recherches en cours sur le site archéologique de Nahal Zahra, à environ 20 km au sud de celui de Masada, s'inscrivent dans une opération plus large visant à sauver les trouvailles archéologiques menacées par les fouilles illégales et les pillages dans le désert de Judée. Depuis environ 8 ans, une équipe dédiée a ainsi exploré la région désertique sur environ 180 km de falaises, identifiant environ 900 grottes, regorgeant de milliers d'objets dont les parchemins délibérément dissimulés il y a bien des millénaires. L'identification de la pyramide a été une trouvaille inattendue. Ce que nous avons ici est l'une des fouilles archéologiques les plus riches et les plus intrigantes jamais découvertes dans le désert de Judée. S'enthousiasme dans le communiqué les trois directeurs des fouilles. La structure, un amas de grosses pierres, ne ressemble en rien aux constructions soigneusement sculptées de l'Égypte antique. Et pourtant, la première semaine de fouilles a permis de déterminer qu'elle a été construite à une époque où la région était sous la domination ptolémaïque, 323 à moins 30 ans avant Jésus-Christ, et non durant la période du premier temple, 10e siècle avant Jésus-Christ, comme cela avait été précédemment suggéré. Forteresse, tombeau ou relais, un mystère. L'équipe ne sait pas encore quelle est la fonction de ce site grec. S'agit-il d'une tour de guet ou d'une forteresse surveillant une route commerciale d'importance par laquelle les ressources de sel et de bitume de la Mer Morte étaient acheminées vers les ports côtiers? D'un logement autrefois utilisé par les percepteurs d'impôts qui opéraient au passage des voyageurs? Une station relais ou encore d'un tombeau édifié au sommet de la montagne? La structure reste un mystère historique captivant que les investigations en cours pourraient contribuer à élucider, notent les archéologues. Outre les pièces ptolémaïques qui ont aidé à dater le bâtiment, ces derniers ont également décelé de la monnaie datant du royaume séleucide, frappée sous le règne d'Antioche IV, Épiphane de 175 à 164 avant Jésus-Christ. Une découverte qui suggère que la structure a été utilisée durant le 3e siècle et la première moitié du 2e siècle avant Jésus-Christ. ont affirmé le Time of Israel. L'un des chercheurs, Ethan Klein, précise toutefois qu'aucun de ces indices ne permet pour le moment d'expliquer pourquoi elle a été abandonnée. Des éléments laissent à penser qu'elle aurait été réutilisée comme tombeau durant la période romaine, probablement en raison de son emplacement. Des pilleurs ont en grande partie vidé cette partie funéraire. Quant à l'étude des papyrus en grec, elle n'a pas encore commencé, mais le spécialiste suppose qu'il pourrait s'agir de documents fiscaux. Trouver des écrits ainsi anciens est extrêmement rare. C'est le rêve de tout archéologue, a-t-il déclaré avec ses collègues. Il conclut dans la publication de l'autorité antiquaire d'Israël, c'est un site très prometteur. De nouvelles trouvailles sont faites à chaque instant et nous sommes impatients de voir ce que les 3 prochaines semaines vont révéler.
Ça ne nous rajeunit pas, en tout cas. Non, très, 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 très intéressant, et j'imagine voilà, qu'il y aura des recherches, des études.
Il y aura des suites. Hein, des suites peut-être dans un mois, dans 2 mois, ou un petit peu plus long. Parce que, bon,
oui, il faut le temps d'étudier les documents.
Tout à fait.
Et une autre information, Monique, Israël court pour la solidarité, des baskets pour une nouvelle vie.
Oui. C'était le 18 mars, c'était la journée des bonnes actions, des baskets pour une nouvelle vie. Donner une seconde vie aux chaussures de course. Lina Schfein, passionnée de marathon, a eu une idée simple mais percutante. Récupérer des chaussures de course, encore en bon état, pour les offrir à ceux qui n'ont pas les moyens d'en acheter. Je me suis demandé, comment puis-je avoir 4 paires de chaussures si certains n'en ont même pas une seule, raconte-t-elle. Ainsi est né le projet K500RUN, qui prend de l'ampleur depuis 1 an et demi. Les coureurs de marathon changent de chaussures tous les 700 km, soit environ tous les 3 mois. Faer a eu l'idée de récupérer ses baskets après seulement 500 km pour qu'elles puissent être encore utilisées au moins 200 km supplémentaires par des personnes dans le besoin. Un engagement pour la solidarité et l'environnement. Au-delà de l'aspect caritatif, Lila Schfein met également l'accent sur l'impact environnemental. Produire une paire de chaussures consomme environ 4000 litres d'eau et émet 1 kg de dioxyde de carbone. Il est essentiel de lutter contre le gaspillage et de prolonger la durée de vie des produits. Avec l'aide de bénévolat, plus de 4500 paires de baskets ont été déjà offertes. Chaque paire est soigneusement nettoyée, équipée de nouveaux lacets et de nouvelles semelles intérieures et remise à son nouveau propriétaire avec une citation inspirante. Ces mots d'encouragement apportent espoir et lumière à ceux qui reçoivent ces chaussures, confine Faer. Les réactions sont incroyables. J'ai vu des gens sauter de joie en recevant leur paire. Un réseau de solidarité actif. Les chaussures sont collectées par des bénévoles à travers tout le pays et passent par un processus de rénovation rigoureux. Je veux que chaque bénéficiaire ait l'impression de recevoir une paire neuve, explique Lilage. Seules les baskets de qualité et en bon état sont acceptées. Les bénéficiaires sont nombreux et variés. Les personnes sans abri, les jeunes filles en difficulté, les soldats blessés en rééducation, l'association Sova, les soldats isolés, l'association Big Brother. Malgré son travail à plein temps, Lia consacre son temps libre à ce projet, sa motivation. L'étincelle dans les yeux de ceux qui reçoivent ces chaussures me donne la force de continuer.
Pour les voyageurs, Monique.
Ah oui, parce que ce qui est intéressant, c'est quand on repart de Tel Aviv, hein, parce que c'est pour acheter des cadeaux donc dans la zone du Tifri, c'est ça qui est important. Alors, le 12 janvier 2025, la Société des aéroports d'Israël lance 2 appels d'offres majeurs pour moderniser le terminal numéro 3 avec des nouveaux espaces commerciaux et de contrôle. L'autorité aéroportuaire israélienne, IAA, a publié dimanche deux appels d'offres visant à agrandir le terminal 3. Alors ça, c'était les offres, c'était au mois de janvier 2025. Hein. Pour agrandir le terminal 3 de l'aéroport Ben Gourion, destiné à améliorer l'expérience des voyageurs à l'arrivée comme au départ. Les projets incluent notamment une nouvelle porte d'entrée pour les passagers arrivant en Israël, la modernisation des zones de contrôle aux frontières et de sécurité, ainsi que l'extension de la zone duty free et de restauration. Selon IAA, ces projets devraient optimiser les capacités opérationnelles de l'aéroport, réduire les temps d'attente et accompagner la croissance prévue du trafic passager dans les années à venir. Les travaux qui devraient débuter au second trimestre s'étaleront sur environ 2 ans et demi. Les appels d'offres prévoient notamment la construction d'un nouveau bâtiment de 4 étages sur 7000 m2, destiné à augmenter le nombre de postes de contrôle aux frontières et à moderniser les systèmes technologiques. En parallèle, la zone de contrôle des bagages à main sera élargi avec l'installation de postes supplémentaires. Un nouveau bâtiment baptisé Porte de Tel Aviv, d'une superficie d'environ 2000 mètres carrés, sera construit pour accueillir les passagers arrivant en bus plutôt que par les passerelles d'embarquement. Selon l'IAA, cette nouvelle entrée accélérera le processus de contrôle aux frontières et permettra un accès plus rapide à la zone de récupération des bagages. La semaine dernière, c'est-à-dire début du mois de janvier 2025, le gouvernement a approuvé un budget de plusieurs centaines de millions de shekels pour la construction d'un nouvel échangeur routier ouest qui réduira de 10 km le trajet pour les voyageurs venant de Tel Aviv et Jérusalem. Ces échangeurs dont le coût total est estimé à 1 milliard de shekels, sera construit sur la route 1 près de Kar Shebat.
Cette fois-ci, c'est un centre commercial et ça sera le plus grand centre commercial d'Israël qui va accueillir les Français Chanel, Kilian Lacoste et Pierre Cardin.
Oui, disons ça, c'est les accords qu'il y a entre la France et Israël. Hein. Donc, inauguration du plus grand centre commercial d'Israël. Le plus grand centre commercial d'Israël a ouvert ses portes le 27 février, situé à Ramah HaSharon, banlieue nord de Tel Aviv. Ce centre appartient au groupe israélien Big Shopping Center, fondé en 1994 et coté à la bourse de Tel Aviv, et qui détient une position dominante sur le segment de la gestion des centres commerciaux. Le nouveau complexe, qui s'étend environ sur 43 000 m2 d'espace commercial, attenant une tour de bureau de 43 étages, plus de 160 magasins de marques israéliennes et internationales opéreront, dont les Français, il y aura Chanel, Kilian, Lacoste et Pierre Cardin. Le centre devrait accueillir environ 500 000 personnes par mois, plus de 150 000 visiteurs ont d'ores et déjà fréquenté le site lors de son week-end d'inauguration.
On parle vin cette fois-ci, à consommer avec modération bien sûr. Les vins israéliens ont connu une croissance record aux États-Unis en 2024.
Eh oui, mais ça c'était en 2024. On verra bien ce qui va se passer en 2025. Hein. Yarden Win importe la filiale américaine à 100% du Golan Vinerin et Galin Mountain d'Israël a annoncé une croissance record de ses ventes annuelles pour 2024 avec un volume de caisses et de ventes brutes en hausse de plus de 40% par rapport à 2023. Le portefeuille de Yarden Yon Import, qui comprend les marques phares Yarden, Jigal, Mondermont, Yarden Cru, Elite et Galin Mountain, établit de longue date dans la catégorie des vins israéliens et attribue sa croissance explosive à une expansion significative dans la catégorie des vins non cachers. Et alors que l'industrie est confrontée à l'évolution démographique des consommateurs et à des problèmes de stock, la nouvelle équipe dirigeante de Yarden Yon a su tirer parti des opportunités offertes par le marché concurrentiel des États-Unis en soutenant et en favorisant la sensibilisation des distributeurs, des consommateurs, du commerce et des médias, et en mettant en œuvre des stratégies de distribution ciblées pour accroître la présence dans les chaînes nationales et régionales, ainsi qu'auprès des principaux détaillants indépendants, tant sur le plan qu'à l'extérieur.
Les pratiques de construction écologique d'Israël sont une préoccupation climatique, Monique.
Eh oui, ça date, l'article date du mois de mars, c'est très récent. Israël est une nation connue pour son esprit d'innovation, a fait des progrès significatifs dans le domaine de l'architecture durable et confronté à des défis géographiques et climatiques uniques. Le pays a adopté des pratiques de construction écologique en réponse aux préoccupations climatiques d'urgence d'aujourd'hui. Celles-ci ne visent pas seulement à minimiser l'impact environnemental, elles visent à créer des espaces qui améliorent la qualité de vie de ceux qui les habitent. Si générale, la construction écologique est plus qu'une tendance, c'est une nécessité, en particulier dans les endroits comme Israël où les ressources naturelles sont rares et cette approche se concentre sur la création de structures respectueuses de l'environnement et économes en ressources tout au long de leur durée de vie. En Israël, les pratiques de construction écologique répondent à des problèmes critiques tels que la pénurie d'eau et la consommation d'énergie. En utilisant des matériaux durables et des systèmes économes en énergie, la nation vise à réduire considérablement son empreinte carbone. La promesse d'un environnement de vie plus sain motive ses initiatives, garantissant que les générations actuelles et futures en bénéficient. Les bâtiments écologiques israéliens se distinguent par leur conception réfléchie et leurs caractéristiques innovantes avec une isolation avancée, des fenêtres économes en énergie et des panneaux solaires. Ces bâtiments réduisent considérablement la consommation d'énergie, d'autant que les architectes maîtrisent les technologies d'économie d'eau. De nombreux bâtiments sont dotés de systèmes de récupération des eaux de pluie, de recyclage des eaux grises et d'aménagements paysagers résistants à la sécheresse, ce qui fait que chaque goutte d'eau compte. Le gouvernement israélien joue un rôle crucial dans la promotion des pratiques de construction écologique et l'Institut israélien de normalisation a élaboré la norme israélienne de construction écologique, IGBC, qui fixe les normes en matière de construction durable. Les promoteurs qui adhèrent à ces normes peuvent bénéficier d'incitations financières, tels que les allègements fiscaux et des subventions qui encouragent l'adoption généralisée de méthodes de construction respectueuses de l'environnement. Le succès de la construction écologique repose sur l'implication de la communauté et en Israël, les ONG et d'autres organisations s'efforcent de sensibiliser le public aux avantages d'un mode de vie durable. Par le biais d'ateliers, de séminaires et de projets pratiques, elles incitent les individus à intégrer des pratiques écologiques dans leur vie quotidienne. Cette approche populaire garantit que la durabilité n'est pas seulement une politique, mais un mode de vie adapté par tous. Ces réalisations, Israël est confronté à des défis dans son parcours de construction écologique. Les coûts de construction élevés, les obstacles réglementaires peuvent ralentir les progrès, tandis que la sensibilisation du public reste un travail en cours. Pourtant, à mesure que les préoccupations climatiques s'intensifient, la demande de bâtiments écologiques est susceptible de croître. Cette demande stimulera davantage l'innovation et la collaboration garantissant que les pratiques durables continuent d'évoluer et de prospérer. L'engagement d'Israël en faveur des pratiques de construction écologique souligne sa position proactive sur les questions climatiques. En intégrant la durabilité dans la construction, la nation se renforce non seulement contre les défis environnementaux, mais donne également l'exemple au niveau mondial. À mesure que la technologie progresse et que la sensibilisation augmente, le mouvement israélien de construction écologique est appelé à s'étendre, ouvrant la voie à un avenir durable.
Très intéressant, mais de toute façon, ça sera les préoccupations dans le futur, même pour nos villes ici. À l'ouest.
Il n'y a pas qu'en Israël.
En France, en Espagne, en Allemagne, et j'en passe.
Exactement.
C'est un classement cette fois-ci, Monique, alors ça rejoint peut-être un petit peu indirectement la dernière information, un classement des hôpitaux à travers le globe. Israël est-il dans le top 10?
Ah, bonne question. Et Israël est-il dans le top 10? Eh bien, le centre médical Sheba situé à Ramat Gan en Israël a été honoré en 2025 en se classant à la 8e place du prestigieux classement des meilleurs hôpitaux du monde établi par Newsweek. Ce classement évalue plus de 2400 hôpitaux à travers le globe, mettant en lumière les établissements offrant des soins d'excellence, une recherche innovante et une technologie médicale de pointe. Un engagement envers l'innovation médicale. Le centre médical Sheba est reconnu pour son engagement envers l'innovation médicale et la qualité des soins prodigués. Il se distingue par son utilisation avancée de la technologie, notamment en matière de télémédecine, d'intelligence artificielle et de robotique, contribuant ainsi à améliorer les diagnostics et les traitements pour les patients. Des soins d'exception qui font la différence. Le centre médical Sheba se distingue par une prise en charge médicale ultra moderne et des traitements de pointe qui rivalisent avec les meilleurs hôpitaux du monde. Son expertise en oncologie lui permet de proposer des thérapeutiques innovantes, notamment des traitements personnalisés basés sur l'intelligence artificielle. En cardiologie, l'hôpital est un pionnier dans les procédures de cathétérisme avancé et les interventions mini-invasives qui réduisent considérablement le risque post-opératoire. Sheba est également un leader mondial en médecine régénérative, utilisant des cellules souches pour traiter les maladies dégénératives et neurologiques, offrant ainsi de nouvelles perspectives aux patients atteint de pathologies jusqu'ici incurables. En neurologie, le centre est en première ligne dans le développement de traitements contre la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques avec des essais cliniques prometteurs. Ainsi, son centre de réadaptation est l'un des plus performants au monde, intégrant des technologies de réalité virtuelle et des exosquelettes robotisés pour aider les patients à retrouver leur mobilité après des graves blessures ou des AVC. L'accent mis sur une médecine humanisée fait du centre médical Sheba une référence incontournable dans le domaine de la santé mondiale. En période de conflit, le centre médical Sheba a démontré sa résilience en offrant un refuge sûr pour des patients gravement malades. Son hôpital souterrain a servi de havre de paix, garantissant la continuité des soins, même dans des situations les plus critiques.
Cette fois-ci, Monique, une soirée exceptionnelle à Tel Aviv. Trois firmes ayant contribué au dynamisme de la relation, des relations entre la France et Israël.
Eh oui, disons que c'est les relations commerciales, tout simplement, entre la France et Israël. Alors, à l'occasion d'une réception placée sous le haut patronage de l'ambassade d'or de France, en présence du chargé d'affaires Michael Griffon, de la CCIF, Chambre de commerce et de l'industrie, Israël-France et son président Julien Rotman ont eu le plaisir de décerner pour la première fois leur trophée 2025 à trois entreprises israéliennes ayant particulièrement contribué au dynamisme des relations commerciales entre la France et Israël. Alpa Cosmetic Group, acteur incontournable de la distribution des marques françaises de prestige telles que Chanel et Longchamp, est partenaire de Bake Off pour Nivea et de Labello. Anita Lansen LDD, entreprise basée dans le kibbutz éponyme et spécialisée dans les lentilles intraoculaires, qui a renforcé sa présence en France en intégrant son distributeur local comme partenaire de plein exercice. Catun Machine, leader dans le domaine quantique, collaborant étroitement avec plusieurs centres de recherche français, et la prometteuse start-up Alice et Bob. Michel Griffon, chargé de l'ambassade, a salué l'engagement des lauréats, illustration de la résilience de l'économie israélienne en temps de guerre et de la confiance maintenue par la France par cette résilience.
Monique, Israël améliore la sécurité alimentaire mondiale grâce à une technologie ou la technologie intelligente.
Eh oui, Israël améliore la sécurité alimentaire mondiale grâce à la technologie intelligente. C'est un article qui est récent, qui date du 28 mars. Aujourd'hui, des millions de personnes souffrent de la faim, de la malnutrition et d'un approvisionnement alimentaire inadéquat dans le monde. Et en réponse, de nombreux start-up travaillent à l'amélioration de la sécurité alimentaire mondiale, en particulier les start-up Hashtag et Foodtech, basées en Israël, où il existe une longue tradition d'innovation pour surmonter un climat rude, l'aridité, le manque de ressources et d'autres défis. Les jeunes entreprises israéliennes qui appliquent la technologie à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, de la production agricole à l'élaboration d'aliments nutritifs et durables, apportent une contribution substantielle à la sécurité alimentaire mondiale. Leur expertise en matière de collecte et d'analyse de données, la DIA et de l'apprentissage automatique, de vision par l'ordinateur, de logistique et de sciences biologiques et agricoles est à la base d'innovations qui améliorent la productivité agricole. Transformant les pratiques agricoles, améliore la conservation et la valeur nutritionnelle des aliments, réduisent l'impact sur l'environnement et favorise la durabilité et la résilience dans le monde entier. Le secteur des technologies agroalimentaires est au cœur de l'héritage d'Israël en matière d'innovation. Fondé sur une base scientifique solide et une histoire de percée agricole, indique un récent rapport de Startup National Central. Plus de 750 entreprises stimulent l'innovation et redéfinissent les écosystèmes agricoles et alimentaires. 150 d'entre elles se concentrent sur les divers domaines tels que l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, la robotique et l'équipement agricole, les nouveaux systèmes agricoles et de protéines alternatives. Le secteur israélien de la robotique a fait des progrès significatifs en 2024, avec de nouveaux financements et partenariats visant à résoudre des problèmes agricoles critiques. On peut citer Telvel, par exemple, qui s'attaque à la pénurie de main-d'œuvre agricole grâce à ses robots volants qui cueillent délicatement les fruits avec précision et maniabilité. Les robots peuvent détecter le degré de maturité de chaque fruit et effectuer une cueillette sélective tout en identifiant les maladies sur les fruits en temps réel. La technologie de récolte autonome de Tevel peut cueillir divers fruits, notamment des pommes, des pêches, des nectarines, des abricots, des prunes et des poires. Elle est actuellement utilisée en Italie, au Chili, en Israël, en Californie et dans l'État de Washington. Dans le monde, plus de 600 millions d'acres sont irrigués par submersion, ce qui représente 85% de l'ensemble des champs irrigués. Cette pratique entraîne un gaspillage d'eau, une diminution des rendements, une contamination de l'eau et une augmentation de la quantité de gaz à effet de serre libérés dans l'environnement. Et dans ce domaine qu'intervient CropX, qui est une plateforme de gestion agricole qui intègre des données aériennes et des données pédagogiques en temps réel, mesurées par des capteurs propriétaires. BeWest, propose un service de pollinisation aux producteurs grâce à sa ruche moderne équipée de caméras, d'un bras robotisé et de capteurs effectuant des tâches d'un apiculteur. Biwiz a réduit la mortalité des abeilles de 80%, sauvant plus de 217 millions d'abeilles au cours des 4 dernières années. Grâce à une technologie basée sur l'IA, StepStream gère plus de 400 millions d'arbres et fournit des informations sur chaque arbre, s'appuyant sur des données provenant de nombreuses sources, notamment des drones, des satellites, des capteurs et des bulletins météorologiques. De l'agriculture intelligente, des startups israéliennes se sont tournées vers le développement de meilleurs aliments. Blutrin, par exemple, permet la production de boissons naturelles à tenue réduite en sucre. Oshi, une autre startup israélienne de la foutette, développe le premier filet de saumon entier végétal. En Israël, déclare Alan Turcapa, directeur des partenariats mondiaux chez Startup Mondial Central, nous redéfinissons la résilience, la durabilité et la manière même dont l'humanité se nourrit.
Et enfin, Monique, une information sur une société pour champignons sauvages, une société israélienne.
Oui. Et c'est une nouvelle étude présentée lors de la première conférence israélienne sur les champignons sauvages et publiée dans la revue Mycologia, montre que les intoxications par les champignons sont fréquentes en Israël. Si en Terre Sainte, seuls 0,17% des cas d'empoisonnement sont dus à la consommation de champignons vénéneux, le chiffre passe à 1,7% en Suisse. Il est cependant vraisemblable que cela est dû au très faible nombre de forêts classiques en Israël. D'après une enquête de la Société pour champignons sauvages en Israël, on compte dans le pays 750 variétés de champignons sauvages. 135 sont consommables, environ 600 se situent entre consommables sous certaines conditions ou vénéneuses ou insuffisamment connues. 3 variétés renferment des halluxinogènes et 3 des toxiques causant des dommages hépatiques et susceptibles de causer la mort en cas d'injection. Israël est un pays semi-désertique, si bien que par rapport à d'autres contrées, le nombre de champignons y poussant est relativement faible. L'importance de réserves naturelles pour assurer la protection des champignons est donc prioritaire, comme l'exemple du docteur Dalia, une mycologue du Samir Reshen Institute. Sans les réserves naturelles dans lesquelles il est interdit de cueillir les champignons, le nombre de champignons sera probablement très nettement inférieur. Nous devons absolument sensibiliser l'opinion publique à la protection de la nature et amener les gens à moins cueillir les champignons afin qu'ils puissent aussi pousser d'ici dans les années à venir.
Important quand même cette info. Alors là, il y a moins de champignons en ce moment. Mais quand même, faut faire attention.
Ben, faut faire attention, parce que le chiffre m'a vraiment étonné quand même. Hein. 750 variétés de champignons sauvages.
Ouais, on en a beaucoup ici, on en a beaucoup aussi en Bourgogne qu'on pense parfois être consommables, qui ne le sont pas forcément.
Ouais, donc il faut faire prudent.
Voilà, avoir un petit livre avec soi ou aller à la pharmacie, c'est encore le mieux pour leur demander s'ils sont consommables ou non.
Exactement, donc on vient avec la récolte dans son panier, on va à la pharmacie, et le pharmacien, pas bon, des fois il ne reste pas grand-chose. Hein.
Oui, donc... c'est ça. Soyez prudents.
Il faut être très prudent.
Merci Monique. À bientôt.
Merci Ellie. À très bientôt pour des bonnes nouvelles d'Israël. Et puis peut-être au niveau archéologique, là, on va voir la suite.
Bye bye.
Bye bye.
واحد روحو تكاروت شكت مي سبيب ما تريحو كالي نشيكوت كتانو تلا دمعوت قال تجيدي لي انتو فورالي לא אל תחכי לי, לא אל תבטרי לי, גם אם אעמוד מולך והלב שלך יירא. ואם תחכי לי, ואם תבטרי לי, אז אני ואת זה שנינו מול כל העולם. אני מצטער, אומר שם